día de colores, flowers and power. Me tiene prendida tal after hour. Tú quieres la luna y
émission Araga dirigée par Kamar Idir, ma chronique revue de presse halal sur des sujets haram.
Salam alaikum, marakoum à Jumaat al-Haraga Nafi d'Aad Galer.
L'émission Haraga, la voix des sans-voix, des échoués de la vie, elle fait appel à la rue qui la interpelle.
Et vous allez vous régaler avec vos micros trottoirs.
Et c'est une revue de presse halal sur des sujets haram.
N'oubliez pas, vous êtes avec les Haraga de Marseille. Bakhir al-Haraga.
L'émission phare de Radio Galère, tous les jeudis.
De 16 à 18 heures, c'est à la Rabia Hattuel. Donc, ceux qui n'ont pas entendu, je vais répéter. Nous allons vous proposer un entretien unique avec le professeur Christophe Oberlin. Tout d'abord, a été accueilli par UPM au Centre social Saint-Mauran pour une conférence ce samedi 25 janvier 2025. Urgence Palestine, Marseille, poursuivez ses rencontres mensuelles, thématiques, toujours dans l'optique d'offrir des outils concrets à ceux qui s'engagent pour la Palestine. Cette rencontre d'UPM a été bien qu'un simple échange d'idées. Elle a permis de renforcer la compréhension des enjeux actuels en Palestine et de raviver la mobilisation. Nous l'avons rencontré le dimanche à la Porte d'Aix aussi, pendant la manif, et nous l'avons interrogé. Juste après, il y aura fragments de vie, un puzzle reconstruit, des vies fragiles. Un reportage émouvant. Témoignage recueilli par Kamar Idir. Et on termine dans le même esprit avec Rachid, le SDF. Je vous dis bonne écoute et à tout à l'heure.
En Palestine, en particulier à Gaza, depuis plus de 20 ans, il y en a d'autres qui sont ici. Il y a Dominique Métras, par exemple, qui allait faire de la chirurgie cardiaque très compliquée là-bas un certain nombre de fois. Et puis il y a des Gazaouis, oui, aussi il y a un radiologue de Gaza, vous voyez. À chaque fois que j'ai une conférence, je pose la question, y a-t-il un ou une palestinienne dans la salle? Là j'en ai détecté un, et peut-être qu'il y en a un ou une autre. Voilà, ah bah voilà, vous voyez, ils sont partout. Et cette diaspora palestinienne, elle est extrêmement riche. L'une de mes amies, par exemple, est chercheuse au Collège de France, rien que ça, et elle est extrêmement utile parce qu'elle fait un travail de communication, elle fait un travail d'aide. Et partout, on trouve une diaspora palestinienne. J'étais la semaine dernière invité dans un colloque à Istanbul qui était intéressant car il était consacré au narratif dans les médias de la Palestine, au narratif palestinien. Voilà, avec tous les défauts que vous lui connaissez, eh bien, j'ai rencontré par exemple un Palestinien qui habitait maintenant au Kyrgyzstan. Voyez, partout, on a des amis, il y a une présence, et cette présence, eh bien, sera de plus en plus utile au fur et à mesure que la situation.
Vous écoutez la conférence de presse qui s'est déroulée le samedi 25 janvier à Saint-Moran.
Lorsqu'il sera levé. Alors, depuis 20 ans, en dehors des conférences auxquelles je passe du temps, j'en ai fait plus d'une soixantaine depuis le 7 octobre. Je devais partir d'ailleurs le 7 octobre au matin, c'était complètement le hasard à Gaza. Et évidemment, notre séjour a été stoppé. J'ai dû faire une soixantaine de conférences. Et c'est l'occasion de parler des travaux que j'ai faits qui m'ont permis d'approfondir régulièrement mes connaissances sur la question palestinienne avec des petits bouquins. Et là, j'ai le plaisir de vous présenter le dernier qui remonte à la semaine dernière. Et j'avais eu déjà une impression faite au mois d'octobre. Alors après, j'ai construit un petit peu ces livres en fonction de mon ignorance, qui était grande, en tout cas au départ, en commençant par faire un bouquin sur la vie d'un Palestinien que je connais très bien, avec lequel j'étais toujours vivant. J'étais toujours en contact tout à l'heure dans le train, on a échangé. Après, j'ai traduit un bouquin sur l'histoire de la Palestine qui est ici. Et puis ensuite, au fur et à mesure des événements importants qui m'ont été signalés lors de mes rencontres avec mes amis de Gaza, j'ai fait plusieurs livres, un qui est important historiquement pour le mouvement Hamas, dont je parle maintenant depuis des années et des années, qui était l'épisode de Marjezour. C'était en milieu. Alors, en général, je vois que ces livres sont quand même lus par quelques-uns. qui sait ce qui s'est passé à Marjezour en 1992? Je vois une main, deux mains. Je ne vais pas vous interroger. Levez la main si vous le savez. Il n'y en a que deux. Donc, ça veut dire, j'avais un patron qui disait tout a été publié, mais tout n'a pas été lu, donc on peut continuer. Vous voyez, c'est à peu près ça la situation. C'est un épisode très important, 1992, parce que toute une partie de l'élite, entre guillemets, hein, je n'ai pas beaucoup ce mot-là, mais en tout cas des personnes motrices au sein du mouvement Hamas, eh bien, ont été capturées par Yitzhak Rabin et balancées au Liban sans charge ni procès, en se disant, on va pouvoir négocier Oslo, vous vous souvenez, Oslo 93, 94, on va pouvoir négocier Oslo, et puis comme ça, on a des opposants potentiels qui n'agiront pas, on va les balancer, il y a 400 familles qui vivront, ça sera toujours ça de prix. Et puis ça n'a pas marché, les gars sont restés au Liban, dans la neige, ils se sont serrés les uns contre les autres, ils ont créé une université, le monde entier est arrivé, le conseil de sécurité, enfin bref, ça fait un buzz. Et ce buzz a été véritablement le moment où le mouvement Hamas est passé d'une notoriété locale à une notoriété internationale, puisque le monde entier a débarqué là-bas. Et ils ont passé un an avant qu'Israël ne les laisse rentrer chez eux. Et pendant cette année, ben, ils ont fait ce que vous feriez, vous, si vous étiez enfermé dans cette pièce. Je ne vous souhaite pas pendant un an, mais ils ont discuté, ils ont élaboré un programme, ils ont approfondi ce programme, ils ont lancé des lignes directrices. Et en particulier, là je saute directement à ce bouquin qui est excellent, je peux le dire d'autant plus, c'est pas moi qui l'ai écrit, je n'ai fait que le traduire. C'est un livre qui a été écrit par Daoud Abdullah, qui est un chercheur qui dirige le Middle East Monitor à Londres. Et c'est un bouquin sur l'histoire de la politique étrangère du Hamas. Et cette histoire de la politique étrangère, Et bien, finalement, l'endroit où elle a été constituée, c'est à Marjezour, dans les années 92-93. Et ils se sont dit, il faut qu'on ait une politique étrangère. Il y a un mouvement terroriste, entre guillemets, qui parle d'une politique étrangère. Et ils se sont tournés vers un certain nombre de pays auprès desquels ils pensaient être bien accueillis. Et c'est par la suite, lorsqu'ils sont rentrés de Marjezour. Et en particulier, je vous cite simplement, il y a des chapitres particuliers dans ce livre, en particulier la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, je pense que ça fait tilt dans votre tête, puisqu'il y a eu ce référé, ou plutôt cette participation capitale de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice, qui a abouti à la décision que vous connaissez, c'est-à-dire que le génocide a été rendu plausible, etc. Ben, c'est l'Afrique du Sud, avec laquelle ils ont des relations depuis des dizaines d'années, qui a pris cette initiative, et c'était une initiative extraordinaire sur le plan juridique, dont toutes les conséquences ne sont pas encore derrière nous. Au contraire, elles ouvrent véritablement des horizons. Et puis, c'est moins connu. Au début, après le 7 octobre, quelques temps après, les Américains ont essayé de faire passer au Conseil de sécurité une résolution qui aurait été catastrophique parce qu'elle aurait abouti à classer le Hamas sur la liste des organisations terroristes de l'ONU. Et là, véritablement, ils auraient été paralysés. Et il y a eu deux pays, deux des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, qui ont émis le droit de veto, qui ont utilisé leur droit de veto, c'est la Russie et c'est la Chine. Donc vous voyez à quel point ce mouvement, même isolé sur des cailloux dans la neige et au milieu des scorpions l'été, ils ont été capables de voir loin, vous voyez. Alors il y a eu d'autres épisodes, il y en a un qui est relaté ici, qui est un épisode important, parce que ça a été peut-être pas le premier, mais en tout cas l'un des échanges de prisonniers, et ça résonne particulièrement aujourd'hui, exactement aujourd'hui, puisque c'était l'un des premiers échanges de prisonniers où pour la première fois les Israéliens ont accepté de libérer des prisonniers de longue durée, c'est-à-dire des prisonniers condamnés, je mets tout ça entre guillemets, puisque ces tribunaux sont illégaux, vous le savez, mais donc des gens destinés à rester en prison à perpétuité. Et donc, dans ces libérés, il y avait des gens qui avaient beaucoup travaillé, qui avaient été très très bien formés, des intellectuels, et en 2011, ont été libérés un certain nombre de personnes qui ont été ceux qui ont pris le relais après les premiers historiques du Hamas entre 87 et 2011. Et donc ça a été un événement très important, et la technique de libération, d'ailleurs je l'ai raconté dans ce livre parce que je bénéficiais de l'amitié de Mahmoud Zahar, qui a été le principal, le chef des négociateurs du côté palestinien, quelqu'un qui a toujours eu une énorme vision, une analyse extrêmement sophistiquée. Et puis d'autres, il y a eu d'autres livres, mais tout ça pour dire qu'il y avait un personnage auquel je ne m'étais pas intéressé. Je l'avais croisé une fois par hasard, avant son assassinat en 2004, c'est le Cheikh Yassine. Les gens que j'avais rencontrés jusqu'à l'époque, il faut se remettre là aussi dans ma situation. Je débarque à Gaza en fin 2001, un chirurgien qui attire des chirurgiens, et on fait de la chirurgie. Et puis, bon, il y a les à côté, il y a les after, comme on dit. L'un des premiers chirurgiens que j'ai, non pas formé, parce que tous les chirurgiens de Gaza ont été formés ailleurs. Moi, j'ai apporté des petits compléments de formation dans le domaine de ma spécialité, les nerfs, les paralysies, les choses comme ça. Mais l'un des chirurgiens qui, d'un certain point de vue, a été mon élève, c'était Abdelaziz Rantissi, c'était Mohamed Rantissi, le frère d'Abdelaziz Rantissi, fondateur du Hamas. Et donc, très vite, j'ai été introduit dans l'intimité de Abdelaziz.
Professeur Oberlin, au Centre social Saint-Mauron, le 25 janvier 2025.
Mon ami anesthésiste Christophe Denande, fidèle depuis plus de 20 ans là-bas avec moi, qui, se doutant de rien, comme toujours, a sorti son appareil photo en disant on va prendre une petite photo de groupe, et à ce moment l'ensemble du groupe a fait ah non, vous voyez, on n'était pas mûr tout à fait pour ça. Et donc il a fallu du temps pour que cette maturité vienne, il a fallu du temps pour que j'ose poser des questions, il a fallu du temps pour que je prenne des notes après les entretiens que je pouvais avoir, il a fallu encore du temps pour que j'arrive et que je pose un magnéto sur la table. Et pendant toute cette période qui a duré à peu près 10 ans, j'ai pu écrire simplement des articles, des rencontres, des anecdotes, des choses comme ça. Et au bout de 10 ans, je me suis dit, mais c'est pas possible, avec tout ce qui se passe, avec la chance que tu as de pouvoir rencontrer pratiquement n'importe qui dans la bande de Gaza, ça vaut la peine d'approfondir tes connaissances et puis de les transmettre sous la forme de bouquins. Et après avoir fait tous ces bouquins, je me suis dit, mais finalement, le père fondateur, le Cheikh Yassine, qui était-il ? Et j'en savais pas grand-chose parce que, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui était paralysé des bras, des jambes, et donc qui n'a rien écrit, qui n'a laissé aucune trace écrite. Je pensais aussi que ce personnage, dans son fauteuil roulant, avec son voile sur la tête, c'est une image qui frappe, et il faisait penser à Gandhi un petit peu. C'est une image, c'est un symbole. On affiche sa photo. Et là, je me suis complètement trompé. Je me suis complètement trompé parce que quand j'ai commencé à interroger les témoins, puisque j'ai commencé ce travail il y a 2 ans, le Cheikh Yassine avait été assassiné depuis 20 ans, 2004, quand j'ai commencé à interroger les témoins, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous passés par l'école du Cheikh Yassine et qu'ils avaient une philosophie qui avait démarré à un moment précis avec une personne précise qui était le Cheikh Yassine. Et je me suis rendu compte en réalité que c'était un grand intellectuel, et les plus grands intellectuels du mouvement ont toujours demandé conseil, étaient les élèves, ont donné des avis qui parfois étaient contradictoires, mais le Cheikh Yassine, et c'est celui qui a, en finale, faisant la synthèse de tout ça, parce que ce n'était pas du tout un dictateur, hein, c'était quelqu'un qui écoutait énormément, et finalement c'est lui qui a eu la vision, et donc je lui ai dit, il faut faire un bouquin. Alors j'ai interrogé une trentaine de témoins, et bénéficiant de toutes ces années passées sur place, de la confiance, des bouquins dont certains ont été traduits en arabe, je peux dire que je peux rencontrer pratiquement tout le monde à Gaza quand j'y vais. Le seul qui n'a pas voulu, c'est Yahya Sinwar, parce que Yahya Sinwar était quelqu'un qui vivait dans le secret. Il avait raison d'ailleurs, et et on le comprend parfaitement. Mais sinon, j'ai rencontré tous les gens que j'ai voulu rencontrer et qui se sont livrés complètement sur la question du Cheikh Yassine. Alors, c'est toute l'histoire du personnage et du mouvement. Et puis, il y a une autre source très importante que connaissent seuls les arabisants. Qui a écouté sur Al Jazeera, maintenant c'est sur YouTube, cette interview fleuve qu'a fait le Cheikh Yassine en 1998 par Ahmed Mansour. Levez la main. 1, 2, 3, 4. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas 4, 5, oui, voilà. Il faut être arabisant, très bon arabisant. Et donc, Ahmed Mansour a fait une interview. J'ai eu au téléphone Ahmed Mansour au début, quand j'ai commencé à travailler sur le bouquin. Et puis, il a donné des interviews depuis sur le making-of, comment il a fait cet entretien. Et là, il a eu aussi, lui, le flair, si j'ose dire, pour un journaliste, c'est-à-dire qu'il s'est dit, ah, là, j'ai une occasion, le Cheikh Yassine était de passage à Doha, et il a fait une interview de 8 heures. Il a fait, en plus, je crois, manifestement, il l'a fait en 2 fois, parce qu'on voit que le fond change au milieu, mais il y a 6 heures. 8 épisodes de 45 minutes. Et là, c'est le Cheikh Yassine, et c'est un document évidemment absolument unique et capital, se raconte lui-même. Alors, bien entendu, quand on se raconte, on ne leur raconte que ce qu'on veut. Donc c'est intéressant de corroborer les choses. On voit bien que le Cheikh Yassine, au moment où il a été interviewé, c'était en 1998, et s'est passé, découpé en épisodes, en 1999. C'était un moment où le Hamas était dans une situation très difficile, puisqu'il était réprimé très violemment, à la fois par les Israéliens et par l'autorité palestinienne qui était présente à Gaza. Donc on comprend que certaines choses, ils ne souhaitaient pas les dire. Il y avait beaucoup de prisonniers du Hamas dans les prisons et qui étaient torturés comme tous les prisonniers. C'est pas nouveau, malheureusement. Tous, la torture est systématique depuis toujours, y compris mon ami Mohamed Randissi, chirurgien, a été torturé quand il a passé 3 mois en prison. Le Cheikh Yassine, au moment de cet entretien, ne pouvait pas dire, était strictement limité dans les choses qui ne nuiraient pas potentiellement à des prisonniers. Et ça, on le voit très bien, on le décèle très bien dans l'interview. Et puis, il y a une autre chose sur laquelle Ahmed Mansour insiste, et là c'est plus amusant, c'est-à-dire que le mot est encore aujourd'hui, on peut le prononcer dans cette pièce, mais j'attends le moment où on pourra le prononcer en France à la télévision publique. C'est le mot « frère musulman », vous avez entendu ?« Frère musulman », voilà. Et donc, à cette époque, finalement c'est depuis Nasser, hein, depuis l'époque où Nasser, après avoir s'était accoquiné avec les frères musulmans au moment de sa montée au pouvoir, après, à la suite, et ça j'aimerais bien en discuter avec de bons historiens, soi-disant d'une tentative de complot des frères musulmans pour se débarrasser de Nasser, personnellement, j'en doute un peu, parce que j'ai étudié relativement, et puis avec mon ami François Burga, qui sera peut-être là tout à l'heure, l'histoire des frères musulmans, l'histoire de l'islam politique. François Burga, vous savez, est un chercheur CNRS hyper sérieux et objectif, qui a travaillé sur tous ces mouvements. Et les mouvements des frères musulmans, il est né, vous le savez, en 1928, il est né pour, c'est un mouvement pour lutter contre la colonisation anglaise. Et si on observe les différents régimes qui se sont succédés en Égypte, les frères musulmans ont toujours, toujours lutté contre les pouvoirs dictatoriaux. Et ce sont les dictateurs qui, quand parvenus au pouvoir, ont lutté contre les frères musulmans. Il y a un cycle qui est absolument évident quand on voit l'histoire des années 30, 40, 50. Et donc Nasser a utilisé cet argument, vrai ou faux, personnellement j'en doute, et en tout cas la répression des frères musulmans a été relancée jusqu'à aujourd'hui. Et donc quand Ahmed Mansour interroge Ahmed Yassine, lui dit « Vous êtes des frères musulmans ?» Il dit « Non, pas du tout, non, moi je m'intéresse aux idées, etc. Mais j'en connais pas. » Il dit ça. Et dans les interviews, régulièrement, Ahmed Mansour revient à la charge. À la fin, on éclate de rire parce qu'il finit par nous dire, parce qu'il dit « Mais bon, vous n'avez pas rencontré les leaders des frères musulmans ?» Non, jamais, déjà. Et puis à la fin, il craque, il dit « Ah si, un jour, c'était quoi ?» Je passais dans la rue, par hasard, et puis on m'a dit, il y avait une librairie, on m'a dit, tu sais qui est le professeur qui fait la conférence dans la librairie? C'est le professeur Seyed Koutoub. Voilà, alors ceux qui connaissent savent que Seyed Koutoub est l'un des figures théoriciennes de l'islam politique. Il est considéré comme un radical. Bon, il faut voir le contexte aussi. Moi, dans mon petit livre sur le Cheikh Yassine, je me suis contenté de faire quelques citations, parce qu'avant de critiquer, le mieux, c'est quand même déjà de lire un peu. Bon. Et donc, je vous ai mis des extraits. Alors, si on va me dire, c'est des extraits choisis. C'est vrai, je les ai choisis, bien oui. C'est des extraits choisis de Hassan al-Banna et de Seyed Koutoub. Voilà. Pour le reste, l'évolution politique, on le voit dans nos pays où des gens varient au cours de leur carrière politique d'un extrême, parfois à l'extrême opposé, voyez. En tout cas, dans ces gens qui ont écrit des livres, l'important avant d'en parler, c'est de les lire. Hassan al-Banna, il y a une formule qui est très facile à retenir et qui montre bien son idée. Il dit, si l'islam, ce n'est pas s'occuper de la société, si l'islam, ce n'est pas s'occuper de l'éducation, si l'islam, ce n'est pas s'occuper de l'économie, etc., 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 qu'est-ce qui reste ? Des prosternations vides de sens. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est l'idée princeps, c'est l'idée générale des frères musulmans qui disent, bah, écoutez, nous, on est désolés, mais on a une histoire, des racines, une philosophie, une religion, et quand on va mettre son bulletin dans l'urne, eh ben, il n'est pas question de mettre tout ça de ce côté et de faire une véritable occultation mentale. C'est ce que nous faisons. Je vous citerai à la fin, si je retrouve mon téléphone, j'ai mis dans mon téléphone une citation. Et là, je ferai un quiz. Et franchement, s'il y en a un ou une qui réussit à savoir qui a écrit ça, je lui offre gratuitement la biographie du Cheikh Yassine. Bon, je mets ça de côté. Tu participes ? Ah non, peut-être qui sait, non. Alors, donc ce Cheikh Yassine, il y a le récit, c'est ce qui fait la tige, si vous voulez, de mon récit. Et puis, il y a une trentaine d'entretiens que j'ai eus très divers, qui sont intercalés un peu comme des branches et qui vont corroborer ou discuter certaines choses que dit le cheikh, avec quand même une idée générale, c'est que le cheikh Yassine pensait dès le début, il disait, l'affaire Israël-Palestine, ce sera une affaire de génération. Ça ne va pas se régler comme ça. Ceux qui ont choisi la voie des armes, on les respecte, hein, ce sont des Palestiniens comme nous, mais en tout cas, ils se trompent. Et c'est vrai qu'avec le recul du temps, que ce soit avec l'épisode de l'expulsion des Palestiniens de Jordanie, Septembre Noir, l'expulsion du Liban, etc., on voit bien que finalement, la lutte armée comme moyen initial de libération nationale n'était pas appropriée face à une puissance militaire énorme qui était celle d'Israël de l'époque. Et un autre caractère du cheikh Yassine qui est intéressant, c'est qu'il y avait de l'humour. Et c'était un provocateur d'une certaine façon, mais toujours très prudent. Et puis il avait aussi un sens de la mise en scène, ça qui est indiscutable. Et donc souvent on rit en l'écoutant, en voyant la façon dont il roule dans la farine ses opposants. Pas ses opposants sur le plan, vous voyez, opposants politiques, non, simplement ceux qui ont une idée différente sur une question qui se pose, il arrive souvent à les retourner. Et donc je dois dire qu'en ayant interrogé toutes ces personnes, c'est truffé d'anecdotes où les gens nous font sourire parce qu'on voit qu'ils voyaient plus loin. C'est ce que disent un certain nombre. Nous, on voyait ça, ça, ça. Lui, il voyait plus loin. Alors, je ne vais pas commencer à vous raconter toutes ces anecdotes, mais peut-être quelques-unes quand même. Le moment, finalement, où le mouvement des frères musulmans, 1928, après il y a eu des épisodes, il y a eu jusqu'à 1 million de personnes en Égypte, enfin ça s'est développé. Et le moment où c'est arrivé en Palestine, où ça s'est vraiment développé, c'est à la suite de la disparition de Nasser. Pas tant à la suite de la défaite de 67. Mais en tout cas avant 67, tout le monde était pro-nassérien. Et je raconte dans le bouquin toute une série de personnes qui ont été des militants pro-nassériens de l'époque et qui sont passés à l'islam politique après. Les militants pro-nassériens, pour un certain nombre, étaient des musulmans croyants et même pratiquants. D'autres étaient athées. Mais en tout cas, c'est pour des raisons de stratégie de libération de la Palestine que bon nombre sont passés du marxisme, finalement, à l'islam politique. Et il y a des noms extrêmement célèbres. D'abord, Yasser Arafat, il n'a jamais fait partie des frères musulmans, mais ça n'empêche qu'au moment où il a commencé à militer, il était étudiant au Caire, il avait 19 ans, eh ben, il est allé dans le groupe des frères musulmans, ont commencé à se dire qu'est-ce qu'on peut faire, vous voyez. Et puis il y en a d'autres qui sont devenus des vrais frères musulmans, y compris des noms, c'est-à-dire qui ont fait leur déclaration, il y a un terme, j'ai oublié. Et donc il y en a un certain nombre. Et puis allégation,
allégeance,
voilà, c'est le mot qui me manquait. Voilà. Et j'ai même retrouvé un personnage qui était représentant, enfin des leaders du Parti communiste dans les territoires de 48, à l'intérieur donc d'Israël, dans les territoires, leader du Parti communiste à son époque, et qui est devenu un cheikh. C'était le cheikh Abdullah Darwish. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de passages qui ont montré que, l'efficacité passait du côté de ceux qui se formaient en attendant. Pourquoi se former ? Bien, le cheikh Yassine a dit, nous, de toute façon, notre affaire, c'est une affaire de génération. Donc, on va former les gens, on va les faire revenir aux sources un peu de nos racines, notamment culturelles ou religieuses, et on va se focaliser sur les jeunes. Hein. C'est-à-dire que, voilà, vous, moi, non, on n'aurait pas été des cibles pour le cheikh Yassine. Et donc, j'ai interrogé toute une série de personnages qui ont commencé à fréquenter le cheikh Yassine quand ils avaient 12 ans, 14 ans, 16 ans. Hein. Et c'était d'autant plus étonnant que le cheikh Yassine, finalement, n'a fait que, entre guillemets, des études primaires et secondaires, pour des tas de raisons qui sont racontées dans le bouquin, il n'a pas pu aller au-delà. Et malgré, finalement, ce peu de formation à la pédagogie et même à la politique, eh bien, il a réussi immédiatement à fasciner véritablement tous ceux qui venaient le voir. Et les témoignages sont en masse, montrant à quel point ce personnage était capable de séduire n'importe quelle personne qui entrait dans une pièce, qui s'asseyait. Le cheikh Yassine s'adressait à lui comme aux autres, ce qui fait qu'au bout de 5 minutes, ils avaient l'impression qu'ils se connaissaient presque. Et ce qui fait que même les plus jeunes osaient prendre la parole. Et j'ai eu des récits assez extraordinaires de la part de gens qui, après, sont devenus des leaders, des professeurs, des enseignants, des médecins, que sais-je, et donc qui ont commencé, finalement, par cette fréquentation, tout simplement, du domicile, c'est-à-dire d'une baraque en parpaing avec des tôles sur le toit, chez le cheikh Yassine. Donc, c'est ces récits qui m'ont vraiment frappé, et les plus grands intellectuels que j'ai rencontrés, en particulier Bassem Naïm, eh bien, même pour lui, le cheikh Yassine reste un mystère, une espèce de mystère d'une famille pas spécialement éduquée, même pas éduquée du tout, et pourtant, y a beaucoup de récits, enfin c'est que des anecdotes. Je pense à Bassem Naïm, qui a été l'un des très très bons intervenants dans ce bouquin, et qui me racontait, et c'est là la chance d'avoir passé du temps sur place, c'est-à-dire que tous ces personnages qui sont dans le livre m'ont raconté véritablement, ils m'ont mis leur trip sur la table, ils m'ont raconté leurs insuffisances, leur tout, et puis des anecdotes sympathiques. Bassem Naïm me disait, moi j'ai commencé, j'étais pas dans une famille, on était tellement assidus à la mosquée, puis vers 12 ans j'ai commencé à aller à la mosquée, et ma grand-mère, dit Bassem Naïm, ma grand-mère me disait, mais pourquoi tu vas à la mosquée, tu n'as rien à te reprocher. Vous voyez, il y a beaucoup de choses assez touchantes dans leur récit. L'immense majorité des Palestiniens se retrouvent orphelins parce qu'ils croyaient dans Nasser, ils faisaient de bons discours, il avait un programme, c'était la communauté, le panarabisme, c'était formidable, et là, patatras. Et une fois encore, le cheikh Yassine fait une certaine malice parce qu'il raconte que Nasser est mort un lundi. Et puis, le vendredi, il doit faire le prêche à la mosquée. Alors, il arrive, il fait son prêche. Il ne dit pas un mot de la mort de Nasser, pas un mot. Alors, à la fin, il y a des gens quand même qui commencent à s'énerver. Mais comment? Tu ne parles pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas. Et à ce moment-là, eh bien, il a sorti une sourate du Coran, qui est la sourate Al-Imran, où, en gros, ceux qui connaissent me diront si je me trompe, mais ce que je me suis fait expliquer, en gros, c'est que le prophète avait dit que finalement, même lorsque moi, prophète, je mourrai, en gros, il ne faudra pas qu'on en fasse un fromage.
Voilà, c'était la conférence donnée par le professeur Christophe Oberlin. C'était le samedi 25 janvier 2025, bien sûr, au centre social, pas l'ancien, le nouveau, le centre social Saint-Maurent. Donc on va passer maintenant au dimanche. Et vous savez que dimanche, il a assisté à la manifestation, on est d'accord. Donc cette manifestation s'est déroulée comme chaque jeudi dans le calme. Et on a essayé de le discuter avec lui, en participer Mohamed El Ghetta et Samuel. Moi, je vous dis bonne écoute.
Bonjour, monsieur docteur Christophe.
Oui,
alors,
bonjour,
vous êtes un peu le spécialiste de la main qui a formé énormément de chirurgiens palestiniens. Et je voulais que vous vous présentiez un peu, en fait, aux auditeurs qui ne connaissent pas le travail formidable que vous avez fait. Surtout que moi, je vous ai retenu avec la formule où vous étiez présenté comme un ouvrier chirurgical. Et
oui,
je trouvais ça d'une humilité.
Manuel, oui, c'est vrai.
Oui, travailleur manuel.
Non, je n'ai pas formé énormément de gens. Il y a une fac de médecine, il y a plein de filières de spécialités chirurgicales, mais j'ai travaillé toute ma vie dans un domaine précis qui est celui des paralysies.
Ouais.
Vous connaissez peut-être dans votre entourage ou ailleurs ces accidents de moto où on se retrouve avec le bras paralysé.
Ouais.
Donc c'est toute cette chirurgie nerveuse qui a été mon travail que j'ai fait en France et à l'étranger depuis longtemps. Et il y avait un besoin là-bas, la première fois que je suis allé en 2001. Déjà, ils m'ont porté des listes de blessés, paralysés sciatiques, toutes les plaies par balles possibles et imaginables. Et ils m'ont dit, on ne sait pas faire.
Ouais.
Donc j'ai transféré là-bas mes enseignements, mes diplômes dont j'étais responsable. Ils ont fait un laboratoire de microchirurgie, ils ont appris à suturer tout ça.
D'accord.
Et maintenant, j'ai la joie d'avoir un certain nombre d'élèves là-bas, mais qui sont grands maintenant. Et en particulier, il y en a deux qui sont chefs de service, Ashraf El Baya, l'hôpital Shifa, que tout le monde connaît maintenant. Et puis Jamal Abouelal, qui est chef de service à l'hôpital européen.
Ouais.
Et donc c'est des gens qui maintenant ont entre 45-50 ans et qui forment à leur tour des jeunes. Voilà. Donc j'ai initié un petit quelque chose, mais globalement le niveau de la chirurgie et de la médecine là-bas a progressé dans tous les domaines. Tous les domaines.
Et hier, vous avez fait en fait une conférence en fait où parce que il y a une grosse mobilisation des blouses blanches et j'aimerais que vous m'en parliez un peu pour témoigner un peu du travail qui est fait à l'heure actuelle par les collectifs des médecins.
Les blouses blanches ont bien saisi qu'il y avait des besoins. Il fallait aider nos amis dans tous les domaines de la santé, y compris dans le domaine paramédical. Et ça, c'est très important parce que les infirmiers et les infirmières là-bas ont énormément de responsabilités, font énormément de choses, et aller les aider dans cette période aiguë où il y a des gestes de réanimation, des gestes de nutrition, des gestes de pansement à faire, ça correspond à un véritable besoin. Et puis les blouses blanches, en même temps, ont entamé, je dirais quasiment, le combat impossible, c'est de demander à l'ordre des médecins français, eh bien tout simplement, de faire une déclaration disant que le conseil de l'ordre des médecins français, eh bien, voit d'un œil très inquiet la destruction du système de santé à Gaza.
Ouais.
Ce n'était pas quand même la mer à boire.
Non.
Et si vous prenez la déclaration que le même conseil de l'ordre a fait concernant la destruction du système de santé en Ukraine, vous apercevez qu'ils ont pris, ils se sont prononcés très très vite sur l'Ukraine, et jusqu'à présent, après un an et demi de génocide, ils refusent toujours de se prononcer. Et là, on voit la gravité du mal français.
Ouais, et il y a aussi le fait qu'il y a des médecins qui ont été ciblés, il y a des médecins qui ont été emprisonnés, torturés, etc. Et par rapport à son corps de métier, pour moi, ça me paraîtrait infiniment logique de défendre le corps des médecins qui n'ont rien à voir et sont là pour soigner. Quoi.
Le Conseil de l'Ordre en France est c'est lamentable. D'abord, il ne représente personne parce que l'immense majorité des médecins ne votent pas aux élections du Conseil de l'Ordre. Mais c'est véritablement une espèce d'outil de propagande dans ce domaine qui est nuisible.
Et vous craignez pas en fait que justement l'ordre des médecins vous porte préjudice parce que
vous avez des
positions de dignité quoi.
En 2015, l'ordre des médecins, manipulé par le CRIF, a porté plainte contre moi. Ils ont été ridiculisés sur toute la ligne puisqu'ils n'ont pas pu apporter la moindre preuve de ce qu'ils disaient, c'est-à-dire propos antisémites. J'ai jamais tenu moins de propos antisémites. J'ai fait des centaines de conférences, j'ai écrit une dizaine de bouquins, et vous pensez bien que s'il y avait la moindre trace, j'aurais été assigné depuis longtemps. Donc le Conseil de l'Ordre s'est ridiculisé dans cette affaire.
Et qu'est-ce qu'on pourrait faire à un moment, en fait, nous aussi, simples citoyens, pour soutenir que ce soit les blouses blanches, les médecins qui ont le courage de prendre position et de savoir exprimer la voix de la sagesse, quoi.
Les médecins qui ont le courage de prendre position, il y en a un qui a fait un travail formidable, c'est Cyril Venet, qui est un médecin réanimateur à Grenoble. Et je me souviens quand il m'a appelé au début du génocide, il me disait qu'il avait l'ambition de faire signer un certain nombre de médecins. Et connaissant le milieu médical, franchement, je lui ai dit bonne chance. Et bien, Cyril Venet a réussi à faire signer 1000 médecins, assez vite, 1000 médecins. Bon, il y a 200 000 médecins en France, mais il a fait un travail considérable. Et si j'osais donner une précision, lorsqu'on voit la signature de ces 1000 médecins, eh bien, il y en a la majorité qui n'ont ni de nom, ni de prénom d'origine arabe. Voilà, mais c'est très important.
Oui, mais c'est très important
parce qu'une bonne partie de la médecine en France, et notamment la médecine des hôpitaux, est faite par des médecins d'origine maghrébine. On voit qu'il ne s'agit pas d'une mobilisation communautariste.
Voilà,
si des
maghrébins, si tu es médecin, tu as des valeurs humanistes, puisque le but c'est de soigner.
Enfin,
c'est comme toutes leurs histoires de vouloir ne plus donner d'aide médicale en fait des gens parce qu'ils n'ont pas un bout de papier. Ça va dans la même dérive, quoi. Le but d'un soignant, la personne elle se présente, on la soigne, quoi. C'est toute la grandeur de la médecine qui met en fait en même temps tous les autres citoyens en fait à avoir un peu d'humilité. Avoir un peu d'humilité, de savoir écouter, parce que on est souvent, et c'est vrai que c'est un truc très présent. On le voit bien dès qu'on porte un t-shirt ou un sweat Palestine. Mais toi t'es dans la communauté. Non, c'est ni juif, ni machin, ni. Mais non, il faut des valeurs, des justices.
Je crois qu'avec cet immense massacre, je crois que justement cet argument est un peu tombé.
Ouais.
Je crois que maintenant on ne nous stigmatise moins.
Ouais.
Il reste une véritable tour à prendre qui est celle
de la citadelle,
qui est celle de notre classe politique,
les élites,
qui est vraiment en retard considérable. Si tu veux, je peux lire, parce que maintenant je le porte sur moi, la citation de Lamartine. Lamartine, on ne l'imaginait pas, on le connaît comme un poète. On savait qu'il a voyagé en Orient, il a fait un voyage en Orient qui a été un succès de librairie. Et ce que je ne savais pas jusqu'à une date récente, c'est que Lamartine avait écrit une histoire de la Turquie, c'est-à-dire une histoire de l'Empire Ottoman, tout l'Empire Ottoman, en 8 volumes. Et qu'il avait même écrit une biographie du prophète.
D'accord.
Et là, je voudrais juste lire un paragraphe de Lamartine que je voudrais dédier à Marine Le Pen, si vous pouvez lui transmettre. Voilà. Chère madame.
Attends. Pour moi, on va faire le direct.
Là, tu nous coupes, là.
Non, mais...
Ça va, mettez-vous d'accord.
Allez-y.
Voilà. Donc, Lamartine a écrit des textes magnifiques sur les musulmans qu'il a bien connus, puisqu'il a écrit une histoire de l'Empire ottoman en 8 volumes. Et là, je voudrais vous lire un paragraphe que je dédie à Madame Marine Le Pen. La France, dit Lamartine, est géographiquement comme moralement un pays de fusion et de contraste dans l'unité. Elle est une grande mêlée de peuples, de sang, de langues, de mœurs, de législations, de cultes, qui font tout ce qu'elle a de divers dans une lente et laborieuse unité. La diversité, dit Lamartine, est donc le caractère essentiel et fondamental de la France nationale. Son caractère n'est pas un caractère, c'est un amalgame. C'est la pauvreté des autres peuples, des nations européennes, de n'avoir qu'un caractère national. C'est le génie, c'est l'aptitude, c'est la grandeur, c'est la gloire de la France d'en avoir plusieurs.
Wow.
Lamartine n'était pas seulement en avance sur son temps, il était en avance sur notre temps.
Ouais.
Et le reste, il a une longueur d'avance.
Ouais, ouais, et puis c'est la richesse de la différence, c'est par la multiplicité des regards qu'on arrive à avoir un regard beaucoup plus large, quoi, sur les choses. Donc, pas confronter en fait les gens entre eux, mais savoir s'enrichir de leur regard. Ce qui est très poignant, en fait, moi j'ai appris encore, parce que je discute beaucoup avec Pierre Sandoul en ce moment, parce que je dévore son bouquin dans tous les sens pour mieux apprendre, mieux comprendre, corriger quelquefois aussi des termes, parce que sur des idées, sur des notions, on peut avoir des visions biaisées. Et il m'expliquait, en fait, bah, dans la même famille, t'en as un qui est au Hamas, t'en as un qui est au Fatah. Bah,
bien sûr, bien
voilà,
sûr.
Que eux, ils défendent, bien en fait, avec une logique pour la paix, c'est ils aident des coopératives agricoles. Et les coopératives agricoles, en fait, elles appartiennent à aucun parti politique. Mmh, alors après, ils auraient fait la surprise, c'était leur local commun où ils accueillaient quelquefois les politiques, donc après le Hamas, mais c'était dans le local de la coopérative agricole de l'Union juive pour la paix.
Mais donc, ça ne choque personne là-bas.
Non.
Ça ne choque personne.
Mais ici, on a l'image que tout le monde est Hamas, et, parce qu'il y a cette propagande de partout. Quoi.
Ouais, c'est vrai.
Et vous continuez un peu, vous allez agir comment maintenant par rapport à ce qui se passe? Parce que moi je vois que je suis un peu perdu à l'heure actuelle. Maintenant qu'ils attaquent à Jenin, ce qui se prépare avec Trump, je ne sais plus comment agir.
Moi je crois qu'il faut rester calme. Je crois que les grandes déclarations de Trump vont se heurter très très vite à des impossibilités matérielles, juridiques, constitutionnelles. Dire comme sur un coin de table qu'on va expulser 7 millions de Palestiniens en Jordanie ou en Égypte, c'est totalement irréaliste, et le fait de le dire, ça crée véritablement une ambiance épouvantable. Si jamais les Occidentaux veulent avoir de la violence sur leur propre territoire, ils n'ont qu'à continuer ce genre de déclaration. C'est des appels au meurtre, pratiquement.
Ouais, ouais.
Donc là, il y a un choix à faire. On n'a aucun pouvoir concernant le choix que font les Américains, mais je crois qu'ils vont réagir. Je pense que la base, et notamment les jeunes, vont réagir. Et puis en ce qui nous concerne ici, il faut être extrêmement rigoureux sur les déclarations. Il faut utiliser l'armée de juristes et d'avocats qui fourmillent dans nos rangs et qui est une très grande force. Et donc il faut lutter pied à pied. Et voilà, disons que ce genre de déclarations ne vont faire que prolonger les choses. L'accord qui a été signé il y a quelques jours est exactement dans les mêmes termes en mai dernier et même en décembre. C'est-à-dire que c'est 100 000 morts de plus, en comptant les morts directes et indirectes, qu'a coûté ce retard. Mais l'accord a été écrit exactement dans les mêmes termes. C'est un bon accord.
Alors moi, ce qui est très plaisant, c'est que tu dis exactement, en fait, que Pierre Sandoul, sur le fait de se battre pour le droit international, même s'il y a plein de choses dans l'ONU qui vont pas, comme le droit de veto, mais que quoi qu'il arrive, il faut se battre pour le droit.
On pourrait même dire qu'il n'y a que ça, le droit de veto.
Parce que là, ils sont en train de faire une force, enfin, pousser à la force.
Si tu veux, Trump ne va pas... Les politiques passent. Ce n'est pas M. Trump qui va supprimer l'ONU.
Non.
C'est pas lui qui va faire sauter la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Tout ça, ce sont des structures qui sont l'émission de la volonté des peuples. Et les peuples ne sont pas prêts à se retirer de l'ONU. Au contraire, ils en demandent davantage.
Ouais.
Donc,
S'il n'y a plus de règles, le monde entier est en danger. S'il n'y a plus de règles, c'est la barbarie. Et on n'est pas à l'abri de la barbarie. Hein. On a vu à Gaza, et on n'a pas fini. Hein. Moi, j'appelle ça la barbarie civilisée. C'est atroce. C'est atroce. Parce qu'un barbare, il lui manque... avec tous les éléments de langage et tout pour t'embobiner, tu vois. Par exemple, à Gaza. À Gaza, il n'y a pas de terroristes. Il n'y a pas de terroristes à Gaza. Ça n'existe pas. Et pourtant...
Il n'y a pas de mendiants. Il y a des résistants.
Par rapport à la solidarité et tout. Oui. Ben oui. Et là, on te dit, terroriste, terroriste, terroriste. Mais non, non. Les gens, ils n'ont plus de sens aux choses. Les mots ne valent plus rien.
Oh. C'est pour ça qu'il y a les médias indépendants et les médias alternatifs pour contrecarrer avec un message construit.
Ouais.
Comme tu dis, moi aussi je travaille sur le fait d'avoir des propos plus nuancés, plus corrects, parce que la situation est trop grave pour se permettre les élancer lyriques.
Dans un camp, dans un ordre extrême.
Ouais, c'est de pousser en fait à la raison, quoi, au lieu de... Enfin voilà. Je te laisse le dernier mot parce
non,
que...
Non, ça va, ça va.
Je suis vraiment honoré, moi.
Non, pas du tout.
Bah ouais, si, ouais, un petit mot pour les Marseillais qui nous
aident. Un petit mot pour les Marseillais. Bah, les Marseillais, ils brillent par leur activisme et notamment par la diversité des acteurs de cet activisme. Donc c'est finalement, la Palestine rassemble justement des communautés diverses et c'est ça la force à Marseille. C'est ça votre force, hein, c'est clair.
Et votre prochain voyage?
Mon prochain voyage, écoute, je me suis inscrit pour le mois d'avril en espérant que la frontière égyptienne serait ouverte. Mais par respect pour ma famille, j'ai décidé de ne plus retourner à Gaza en passant par Israël avec des soldats au sol qui tirent sur les femmes enceintes, etc. Sur les médecins, sur les infirmières, etc. Il y a eu quand même plus de 1000 soignants qui ont été tués depuis le début. Et la pression sur la famille est terrible.
Ouais.
Et je ne veux pas leur imposer ça. De toute façon, moi, je travaille surtout sur les séquelles de ces traumatismes. Les Palestiniens, en urgence, ils ont des chirurgiens vasculaires qui sauvent des vies tous les jours. Et moi, après... Oui, avec des moyens insuffisants, mais... Vous seriez surpris de voir la qualité des soins, même maintenant. Moi, j'étais au mois d'avril. J'ai opéré pratiquement dans les mêmes conditions que d'habitude. Parce que les infirmiers et les infirmières me connaissaient, ils savaient où était le matériel. Enfin bon, bien entendu, il y a des pénuries. Mais le drame absolu aujourd'hui, c'est concernant les malades. Hein. C'est pas concernant les blessés. Les blessés, bien entendu. Mais on peut répondre à peu près. Bien entendu, il y a des blessés qui meurent, qui ne devraient pas mourir. Mais
c'est des malades de
c'est des malades. Cancer. Imaginez la ville de Marseille sans médecine. Vous imaginez au bout d'un an et demi. Bon, ben, les petits-enfants, le grand-père, la grand-mère, tout ce monde serait parti,
alors,
bien sûr.
Alors, il y a les dommages invisibles.
Oui.
C'est d'un point de vue psychique. Ils sont détruits. Hein. La plupart, il y en a beaucoup qui sont détruits. Les enfants, même s'ils sont traumatisés, ils ont l'instinct de vie en avant. Ça fait qu'ils vont se réparer, mais plus tard, quand ils seront adultes, ça va revenir en force, tout ça.
C'est sans doute vrai ce que vous dites, c'est ce que disent les psychiatres. Moi, j'aurais tendance à penser que lorsque vous menez un combat légitime, où tout le monde se serre les coudes, vous résistez mieux mentalement et même au long terme. Moi, j'ai pas rencontré une seule famille où il n'y ait pas des gens qui ont été tués. Ces gens, ils sont toujours debout, ils rigolent toujours, etc. Moi, paradoxalement, vous voyez, je suis très inquiet pour le moral des Israéliens, en particulier tous ces soldats qui ont été amenés à commettre des crimes et qui seront poursuivis jusqu'à la fin de leur jour par ces souvenirs.
Jusqu'à l'enfer.
C'est eux qui se réveilleront la nuit dans 10 ans et dans 20 ans.
C'est pas les Palestiniens.
Oui, ça a commencé.
Ils ont des fantômes qui viennent les voir le soir. Des enfants, des bébés.
Français en Algérie.
Ils ont fait inhumain, vous voyez, c'est indicible. Donc, je crois que c'est surtout eux qui ont du souci à se faire.
Ouais.
Et le peuple israélien, au niveau international, c'est fichu pour eux. Ils avaient un bénéfice avec la Shoah, tout ça. C'est terminé. C'est terminé.
Il y a plein de choses à apprendre aussi, en fait. Hein. Comment, en fait, une société a pu basculer comme ça, avec l'embrigadement.
Il n'y a rien à apprendre. Moi, je perds le clavier. Bah,
peut-être toi, mais alors laisse les autres penser.
Je n'ai pas justifié ce genre d'activité.
Apprendre, ça ne veut pas dire qu'on suit des leçons. Simplement, en observant l'ennemi, et si vous voulez que je m'adresse ou pas un peu différemment, en observant l'ennemi, on voit ses faiblesses et on voit là où on peut travailler, justement. Parce que l'ennemi, à un moment donné, ceux qui seront vivants, ils seront toujours là. Vous voyez, quand on parle, par exemple, d'un État unique, cet État unique, ça sera pendant 25 ans. Il faudra qu'il y ait une trêve des armes pendant un certain temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible. C'est strictement impossible. Mais dans 25 ans, pourquoi pas? Et ça peut marcher si on met l'égalité des droits, vous voyez. Donc, il faut essayer de voir au long terme. Et c'est ces orientations qu'il faut suivre, même si on entend Trump raconter n'importe quoi.
Lui, il fait des jeux pour Noël.
Le Canada, le lendemain, il va acheter le Groenland. Enfin,
mais moi, en fait, je parlais de la notion, en fait, la jeunesse hitlérienne, comment elle s'est formée, comment on a fanatisé les gens.
Oui.
Et après, en fait, les dégâts dans la société que ça fait. Et pareil, en fait, les sionistes ont embrigadé, en fait, leur société.
Oui.
Et avec le Tzedek, moi, j'ai vu des films.
Moi, j'ai vu avec le Covid. Ils sont tous vaccinés, ils étaient tous contents. C'était le modèle universel. Je me suis dit, mais ils sont complètement embobinés, les mecs.
Yamhel Djoudi, Ammar Zahi.
Yamhel Djoudi. المن والعطاء يا حديث لساني بالليل والنهار مسلكني من لعار للوطن يا مونسني في المعمورة والقفار
لا تمنعوا حصول
مغفرتك واسعة كل ما يكون نفسي الأمارة بالسوء قلقا يمنزل غيثك من بعد الاعتصار زيري وحبيبي وسيدي ابقى لا تجف عيوني النور بجهار لا تعذب روحي
Juste après la chanson de Ammar Zahi, on va passer à Fragment de vie. Tout à l'heure, vous avez assisté à la conférence débat qui a été réalisée par le professeur Christophe Oberlin. Je vous rappelle qu'il s'est déroulé à Saint-Mauran, Félix Piat.
لا يلحقك غيار زيري وحبيبي وسيدي ابقى لا تجف عيوني النور بجهار لا تعذب روحي وارحي بنار يا إلهي
Bonjour monsieur docteur Christophe.
Henri, tu sais, la bagagerie, c'est un espace pour nous se poser, pour nous pour se poser, parce que on était SDF et pour nous pour se poser, pour se retrouver un peu, parce que
c'est là où vous retrouvez les amis.
Exactement. Mais là. Maintenant, j'ai un logement.
Ah bah très bien. Et Henri, depuis quand vous êtes...
Pas en France,
dans ces conditions. Comment vous êtes arrivé à...
Quand je suis venu... Moi, je suis de la Nouvelle-Calédonie. Et quand je suis revenu, je n'ai pas trouvé de logement. Donc j'ai trouvé un espace pour me poser. Et après, maintenant, j'ai un logement et de temps en temps, je viens pour... Parce que la bagagerie, c'est l'espérance. C'est quelque chose qui nous aide, hein, à se relever. Hein. Parce que on est dans un monde qui est difficile. Et nous, quand on vient là, puis on trouve Damien, on trouve Nico, son petit frère, eh bien, on est là. On est là, puis on vient les aider, on vient de temps en temps, pour, parce qu'on n'a jamais oublié la bagagerie, parce que la bagagerie a toujours été un espace qui a été nécessaire pour nous, pour se relever. Sinon, sans la bagagerie, on n'y arrivera pas.
Je sens qu'il y a une chaleur ici quand même.
Exactement. Pourquoi ? Parce que nous, on est là, puis on se définit comme des gens qui sont dans la rue. Hein ? Avec nos amis à la bagagerie, eh ben, même si c'est pas longtemps, même si c'est pour juste une demi-heure ou une heure, mais on se retrouve. La chaleur humaine, elle est importante pour nous. Et maintenant, je suis parti, j'ai un logement, mais je reviens de temps en temps pour les voir. Exactement. Lui, c'est mon petit frère.
Présentez-moi.
Pardon ?
Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Il s'appelle Nico. Il est de Marseille.
Alors, Nico.
Ouais, enchanté. Comment allez-vous ?
Ça va.
Ouais.
Depuis quand vous êtes là ?
Moi, depuis 2019. Voilà. Et j'étais viré de mon appart à la Capellette. J'ai travaillé un an et demi à l'Armée du Salut, à Coco-Velten. Et là, je suis dans la rue.
Ah, donc vous étiez à Coco-Velten ?
Eh oui, je travaillais, c'est Nico. Ah, okay.
Et c'est là où, quand ils ont fermé, vous vous êtes retrouvé dans la rue ?
Ouais. Non. Ils m'ont viré parce que je n'avais pas payé le loyer. Et pendant 2 mois, j'étais à la gare Saint-Charles. Je dormais carton couverture. Je me levais, hop. Le 3 avril, le 28 mai, j'ai signé mon autographe. Quand tu signes un autographe, tu l'assumes. Voilà. Mais la bagagerie, c'est magnifique. Il y a la convivialité. Il n'y a que des... On est à Marseille, on peut dire, il n'y a que des petits enculés ici qu'on adore.
Dehors.
Voilà.
Et vous êtes Marseille.
Eh ouais. Eh oui, j'ai fait 3 stades Vélodrome.
Ah
oui.
Vous étiez stadié ou quoi ?
Mais qu'est-ce que tu as dit ? Fan de Louvain. TP, normal, ouais, virage ouais. DP. Ouais. Mmh. Tu as les Sofouineurs, ceux qui sont à la Belle de Mai. Ouais. Et tu as les Ultras, normal, hein, qui sont de 84. C'est le plus vieux club, le plus vieux membre de supporters de l'OM.
Et vous êtes quoi ? Vous êtes des ultras ?
Moi, je suis Marseillais, fier de l'être. J'aime pas Marseille, change de ville. Mais la bagagerie, elle apporte énormément pour les êtres humains. Damien, je le remercie 4 fois. Voilà. Je te présente Cubanenos.
La chaleur humaine à la bagagerie. Et nous, on ne peut jamais oublier ça. Hein. On ne peut pas oublier ça.
Je peux vous confier ma vie ?
Il y a toujours une chaleur humaine que... Même moi, je suis parti. J'ai un logement. Mais la bagagerie, on ne va jamais oublier. Parce que c'est là que ça nous a, c'est un espace qui nous a permis à rebondir.
Ça vous manque la Calédonie ?
La Nouvelle-Calédonie, bien sûr, c'est pas mon pays ici. C'est la Nouvelle-Calédonie sera toujours mon pays. Mais la bagagerie, ça a servi à retrouver un peu cette vie communautaire que nous, on recherche, et la chaleur humaine. Sinon, on ne retrouvera nulle part ailleurs. Hein.
Et là, vous êtes en plein petit déjeuner. Je vois que la table est garnie quand même.
Ah oui, c'est tous les jours Noël à la bagagerie. La chaleur, la convivialité, on rigole. Voilà. La chaleur, on a un casier qui est très 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 important. Parce que moi, j'en ai marre de dormir dans les garages aux Catalans. S'il n'y a pas la bagagerie, je ne sais pas.
Hein, on peut poser nos affaires, les récupérer aussi. Ça, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable.
Vous avez connu la bagagerie quand ?
Bon, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois suite à... Ouais, j'ai travaillé pendant 15-20 ans, suite à un divorce, genou par terre, et puis voilà. Et de fil en aiguille, on m'a présenté à la bagagerie, et ils étaient très sympathiques, ils m'ont passé un casier. Au moins, je peux poser mes affaires la journée, le soir les récupérer pour dormir. Mais c'est très convivial. Heureusement qu'ils sont là. Parce que 115, tous les jours, on les appelle, jamais ils répondent. Voilà.
C'est impensable de perdre ce lieu. On est à Marseille, il n'y en a qu'une de bagagerie. Et comme il a dit Damien, ce que j'adore...
C'est avec Nico.
Ouais. Coco Velten, Coco Velten. Eh bien, faut pas perdre. Faudrait gagner un meilleur espace et avoir des participations. Je sais pas, aider le peuple marseillais, aller loin, mais aider le peuple marseillais.
Et là, je vois les ordi, vous pouvez faire surfer sur Internet, non ?
Oui, ouais,
on peut. Oui, exactement, on peut. On peut, il y a des ordinateurs, on peut avoir... au moins, on peut prendre, on peut se faire une toilette, déjeuner et tout.
Numérique, si on perd les papiers, c'est vraiment très 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 important, la bagagerie.
L'important, c'est là où ils trouvent un espace pour une chaleur humaine et pour garder leurs affaires. Et moi, quand j'étais comme eux, j'avais un casier comme mon petit frère, mais après, quand j'ai eu un logement, je suis parti. Mais j'ai jamais oublié la bagagerie, parce que la bagagerie, c'est nécessaire. Il y a une nécessité qui est importante pour tous les gens qui, parce que c'est, ils disent, c'est une association espérance qui va redonner d'espoir à un être humain. Et pour réussir, comment ils vont faire ? Ils ont besoin de cette chaleur pour se lancer en avant. Sinon, ils vont couler. Et que ce soit Nico, que ce soit tout le monde, on est là pour les soutenir, pour dire on y va. C'est important.
Henri, avant vous avez travaillé où ?
J'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie, je suis à la retraite. J'ai travaillé sur les plans. Parce que j'ai fait l'école d'architecture. Et j'ai travaillé sur les plans.
Est-ce que vous avez des nouvelles ? Vous suivez un peu les nouvelles de la Calédonie ?
Je suis en relation avec eux sur Internet. Mais là, je suis à Marseille. Eh bien, je suis à Marseille. Ouais. J'assume ma situation à Marseille. Avec Nico, avec tout le monde. J'assume. Pourquoi je veux les rejeter ? Je ne peux pas les rejeter. Parce qu'on était ensemble, quand je n'avais pas de logement, on était ensemble, on a galéré ensemble.
Ouais, le grand frère, le Kanaki, Henri, on a galéré de partout, à Porte d'Aix-la-Pelouse, Saint-Charles, au Prado, pendant combien d'années ? 7-8 ans. Hein ? Mais on était là.
On ne trouvait pas de logement.
Voilà. Et la nuit, comment ça se passait ? C'est difficile, les bagarres, tout ça.
La nuit, là, Marseille, la nuit, il fait cogiter. Voilà. J'essaye de couper court, mais en étant très sérieux. Alors, moi, je dors dans les garages aux Catalans, la gendarmerie, maintenant. Et j'attends le 3 janvier pour partir au Pitane.
Quand Nico, il a eu sa chambre, il est venu me trouver. J'étais au Mascaret, dans le 14e. À la Tour Sainte. Il est venu me trouver, Nico, et puis il m'a dit, grand frère, il me faut 400 euros dans la journée. Exactement.
C'est pas rien, hein, quand même.
Non, c'est pas rien. Mais on l'a fait, on l'a fait. On l'a fait. Je lui ai donné les 400 euros qu'il avait besoin. Parce que moi, j'ai gagné beaucoup d'argent sur ma retraite et j'ai les moyens de les dépanner. Mais lui, il n'a pas cherché quelqu'un d'autre. Hein. Il est venu tout de suite me voir. Et deux jours après, il m'a remboursé. Le petit frère.
Depuis 2019, je suis là, tu as vu. Je vais partir, j'ai la chance. Est-ce que je fais des efforts? Ben, je m'en vais le 3 janvier, et le 4 janvier, je laisse le casier pour le prochain. Toujours le prochain. Quand tu trouves quelque chose, tu laisses le casier, tu mets pas 2-3 semaines, tu as vu. Ça, tu bombardes.
Vous pensez toujours au prochain.
Eh oui. Eh oui.
On est obligé.
Eh oui. Quand on dormait avec le grand frère à Saint-Charles, on buvait le café tous les matins, on réformait, mon frérot. On sort de loin et heureusement qu'il y a ce Dieu qui est très, très, très convivial. Et je remercie beaucoup la bagagerie. Je n'ai rien à dire de plus.
Nico, alors, à part ça, qu'est-ce que vous aimez comme... Est-ce que vous écoutez un peu la musique? Qu'est-ce que vous aimez comme...
Moi, j'aime bien Burning Spear, le reggae, Black Uhuru, Yellow Man, le Kanaki, mon grand frère, il chante bien.
Ah ouais?
Oui, je t'assure. Et voilà.
Ouais. Je prends la guitare et je joue et lui chante.
Ah ouais, ouais.
Ça arrive, hein. Pas tout le temps, mais des fois ça arrive que je prends ma guitare et je chante et lui il chante avec moi, Nico. Ouais, quand on est ensemble. Quand il est pas bien, quand il est...
Je me rappelle que je me suis dit que l'État français ne me trouvait rien. Quand dans Marseille-Charles il neigeait, j'ai dit « Ah, j'en ai marre, je suis vietnamien !»
Il s'est mis à pleurer, il a craqué. Il s'est mis à pleurer, à mon petit frère. Il me rappelle, c'est vrai, hein, qu'il s'est mis à... Il a craqué, il s'est mis en larmes. Hein. Il a dit, moi, je suis plus français, je suis thaïlandais. Hein. Oui, exact. Hein. Il a craqué.
J'avais pas le casier à l'époque, à la bagagerie. Hein. Il y a très longtemps, ça. Et après, c'est le grand frère qui...
Avec Alex.
Ouais. Il a dit, Alex, c'est prioritaire, c'est le petit frère. Il me faut un casier. Et c'est grâce à ce monsieur-là, le Kanaki, que j'ai eu ça, que j'ai fait des très, très, très bonnes connaissances et que j'ai pu me relever. Me relever, mais vraiment, vraiment. Voilà, dans ma vie. Hein.
Si vous voulez dire pas le mot de la fin, parce que je reviendrai vous voir, qu'est-ce que vous allez dire aux Marseillais qui nous écoutent ici à la radio ?
Pour les Marseillais, eh ben, on va dire tout simplement que la roue tourne. Et si on est maintenant, comme Nico, dans la rue, on ne sera pas toujours. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut du courage et de la volonté pour se relever.
Nico ?
Ouais. Comment tu vas, toi ? Aux Marseillais, je vous souhaite que du bonheur. Redressez les épaules parce qu'on n'a qu'une vie. Et la bagagerie, c'est super cool. C'est un moment de chaleur. Et j'espère que ça va s'agrandir pour tous les gens qui sont dans la rue, parce que la bagagerie aide tout être humain à se relever.
Voilà, bisous Marseille. Merci beaucoup.
Cette partie-là, c'est parce qu'il y avait un problème spécifique à une réponse spécifique de gens qui d'ailleurs n'acceptaient pas des logements sociaux familiaux parce que ça ne correspondait pas. Ça ne correspondait pas économiquement parce que c'était trop cher et deuxièmement en termes de forme d'habitat.
Fatih Bouarois, ancien directeur de la Fondation Abbé Pierre.
N'a rien apporté quasiment ou tellement peu qu'on se dit qu'on n'a pas répondu aux besoins. Parce que la démarche de Centre-Ville pour tous, même si j'en ai pas fait partie, dès le début, c'était de dire comment on répond aux besoins de ceux qui sont là, d'abord. Et c'est vrai que ce quartier-là, et en particulier le Centre-Ville, a toujours une fonction d'accueil, une fonction refuge. Et d'ailleurs, elle continue la fonction refuge. C'est pour ça que, malgré tout, depuis... Moi, je connais ce quartier depuis... Oh là là, depuis tellement longtemps. J'ai toujours connu des opérations publiques d'aménagement, et j'ai commencé en 1980 dans le quartier. Donc c'est pour vous dire, et il paraît qu'en 1900, on avait déjà commencé avant, en 1910, déjà des opérations de réhabilitation. Donc on peut se poser la question, c'est quoi qu'on veut faire de ce quartier-là depuis ? Et pourtant, on s'aperçoit que finalement, les masses économiques qu'on y a mis, les masses financières, n'ont servi qu'à enrichir certaines personnes, mais pas les gens qui y habitent. Et on a encore aujourd'hui, malgré les efforts, malgré les bonnes volontés, parce que c'est vrai ce que disait tout à l'heure Nordine, depuis qu'il était là, c'est vrai qu'on a un interlocuteur. On a quelqu'un qui écoute et qui apporte des réponses avec des moyens extrêmement limités. Et notre problème aujourd'hui, c'est quand même la réponse à des besoins spécifiques. C'est comment on répond aux gens qui sont là. Et la caractéristique de ces quartiers-là, pour l'instant, quoi qu'on y fasse, c'est la grande pauvreté. Et comment on répond à la grande pauvreté ? Je rappelle qu'il y a un rapport qui a été demandé par par la direction de la cohésion sociale sur ce département et pour Marseille. On a calculé le nombre de personnes différentes qui ont utilisé les services de l'urgence sociale, c'est-à-dire l'hébergement d'urgence ou l'hébergement d'accueil de jour ou un médecin du monde. C'est 12 647 personnes qui ont fréquenté dans cette ville. On a effectivement une situation extrêmement grave. Et les réponses qui sont apportées sont loin d'être à la hauteur, que ce soit sur le problème de l'habitat indigne, malgré la bonne volonté, on voit bien qu'il y a un vrai souci. Et le premier des soucis, pour moi, c'est la maîtrise foncière. Comment se fait-il qu'on ait été propriétaire, que la collectivité ait acheté autant d'immeubles pendant des années, et qu'au moment où il a fallu faire une vraie politique, on a bradé ce patrimoine. Et l'histoire du PRI est extrêmement grave, parce qu'elle ne nous donne plus aujourd'hui la possibilité d'avoir de vraies marges de manœuvre. La seule vraie marge de manœuvre, c'est la maîtrise foncière. C'est pas moi qui le dis, c'est toi qui le dis aussi d'ailleurs. Et là, on l'a plus. Et on n'a même plus les moyens, parce que 200 immeubles, bon sang, ça, c'est par rapport au nombre d'immeubles à traiter, et en plus, ça en exclut quelques-uns qui pourraient arriver au fur et à mesure. Moi, je sais que des fois, j'appelle l'OHD, je leur dis, il y a tel immeuble, il y a un logement qui est insalubre. On me dit, ah non, c'est pas nous, ça, il faut appeler les services d'hygiène. On se dit, c'est pas les mêmes moyens. Et c'est normal. Urbanis et les équipes ne peuvent pas répondre à tout ça. Donc, la question, c'est comment vous articulez, mine de rien, parce que tu as répondu quelque chose tout à l'heure, en disant, ça relève pas de l'éradication de l'habitat indigne que de fabriquer du logement social. C'est pas ça son objectif. C'est ce que, alors j'ai mal compris, mais je dis, la réalité, c'est que c'est de pair. Et c'est comment on fait aujourd'hui pour récupérer effectivement le foncier pour que la puissance publique puisse avoir une véritable marge de manœuvre. Et sur le centre-ville d'abord, on disait qu'on peut pas démolir. Les ZPPAU, c'est encore discutable. La question, c'est comment on fait d'abord pour devenir propriétaire et de récupérer les bijoux de famille. Voilà.
Je suis né rue du Kiki circoncis, sans la promesse qu'on devienne de Vinci. Car à la place du pinceau et du pot de peinture, c'est la bombe qui tapisse les murs. Rue où si t'as un stylo, ça part en carafe. Car dans chaque syllabe, t'as des fautes d'orthographe. Rue Raphaël ou rue Vendique, des peintres mais personne ne les revendique. Rue où la peine des vivants n'est pas abolie, où la diversité est morte dans son lit. Et si ta tête déclenche le plan hors sec, c'est pour des feuilles ce qui va avec. Un petit tour de vautour côté jardin, un petit tour et des hyènes la côté cour. Un petit tour mais t'éloigne pas des gradins, parce que si t'entres dans la cour. Rue des foulards qui sont comme un adieu, comme un divorce autant à la République qu'à Dieu. Où seul en régnait, en maître des cérémonies, les artistes de la Motown Company. La rue où si t'approches une fille, attention, utilise quelques principes de précaution. Que voici si tu veux qu'on soit gentil, passe à la maison pour le dépôt de garantie. Rue des amortis de poitrine, et des ballons qui éclatent les vitrines, ou le malheur qui prend un petit pont, rentre dans le vestiaire pour manger ses crampons. Un petit tour et des vautours côté jardin, un petit tour et des hyènes là côté cour, un petit tour mais t'éloigne pas des gradins, parce que si t'entres dans la cour, au secours, allez cours. Au secours, allez cours. Au secours, allez cours. Au secours, allez cours. Je suis né dans la rue où encore aujourd'hui les hommes en bleu ont besoin de sauf-conduit, où la maladie qu'attrape tous les élus, si la promesse est pas la berlue.
Le galère puisse continuer à vivre, à faire chanter, à rêver et à aider les gens les plus démunis. Eh bien moi je vous dis un seul truc pour vous dire qui je suis, je m'appelle... Aujourd'hui nous sommes le 12 janvier 2017, n'est-ce pas Camar? Eh bien, moi, je ne vis pas ma vie en rêve. Et c'est pas une phrase de moi. Je l'ai juste inversée. Moi, je rêve ma vie en la vivant. Par exemple, ce matin, je me réveille. J'entends des oiseaux. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends une boule de beurre, des graines que j'avais pour faire des colliers. J'ai mis tout ça ensemble dans un petit sachet. J'accrochais avec mon balai, j'accrochais ça à la branche. Moi, ce matin, une heure après, il n'y avait plus une seule graine, plus rien de graisse. Ils avaient tout bouffé, les oiseaux. Et ben, je me suis dit, tiens, le bon Dieu, il est de retour. Chaque jour, on se rapproche du printemps. Et voilà, c'est Lily. C'est la vie. C'est Lily. Radio Galère est de retour. Toute une génération que j'ai connue quand j'étais petite, parce que mes parents n'écoutaient que ça, et comme c'était dans d'autres langues, moi je voulais comprendre ce que ça voulait dire. Donc, toute petite, je me suis amusée à traduire toutes les chansons de tous les pays d'Amérique et de tous les pays, Elvis Presley, n'importe qui, toutes les musiques qui passaient dans ma vie, je les ai traduites dans tous les pays où j'ai traversé. Dans tous les pays que j'ai traversé, j'ai essayé de traduire ce que j'entendais. Même si c'était avec des mains, avec des regards, mais j'ai compris ce qu'on essayait de me dire. Et quand j'ai grandi, j'ai changé avec des mots. J'ai appris à aimer, mais après, les sons que j'entendais. Une fois que j'ai compris que c'était les sons qui m'intéressaient, là, je me suis mis à vraiment la musique. Et donc, c'est pour ça que j'ai des morceaux que j'aime plus que d'autres. Mais j'ai pas des musiques préférées. Celle qui me parle le plus, c'est celle qui va me faire trembler de la pointe des cheveux jusqu'à la pointe de mes orteils. Les petits poils qu'il y a tout au bout, s'il en reste. Parce qu'avec les chimios, des fois, il y en a moins. Il faut être honnête. Des fois, on a moins de cheveux. Après, ils reviennent, ils repartent. Mais ma musique préférée, moi, ce serait Jacques Brel. Parce qu'il dit les choses qu'il pense. Georges Brassens, il dit tout ce qu'il pense. Moi, quand je chante, je dis tout ce qu'il pense. En ce moment, je suis en train de chanter « Ilir ». Moi, toute seule ? Oui. Et toujours, on était au foyer, à côté, comment il s'appelle ?
De l'Arc.
Ouais, non, l'autre. Juste à côté de chez Patrick.
Marabout.
Tous les jeudis, on fait de la musique, normalement. Là, en ce moment, il y a un petit creux. Mais la dernière fois, il y avait Will qui jouait du reggae. Et moi, pendant une heure, j'ai chanté. Oh maman, pour toutes les mamans de la Terre. Toutes les mamans du monde. J'ai fait comme Idir, sans connaître Idir. Je connaissais pas encore Idir. Comme Idir, le chanteur.
Oui.
Je ne ferai pas que parler. Je parlerai par petits moments, parce que j'ai des phrases qui sont dans ma tête depuis des milliards d'années. Des phrases qui sont dans ma tête depuis des milliards d'années. Mais il faut que la musique, elle suive ce que je dis. Il faut que la musique, elle suive ce que je dis. Par exemple, si là, je vous fais écouter Money, la chanson de Pink Floyd. Eh ben, tu vois, tu la connais, vas-y, chante. Il s'est fait griller, Kama. Radio Galère, c'est ça aussi. C'est tout le monde qui participe, n'importe quand. C'est sur le vif. Radio Galère, c'est la poubelle qui est devant la porte. Radio Galère, c'est le gamin qui est en train de pêcher un poisson qui fait 2 mètres dans le vieux port. On est tous comme des imbéciles en train de regarder. Et quand le poisson est dehors, il fait 1 centimètre. C'est ça aussi Marseille. Et Radio Galère, c'est Marseille. Et Marseille sans Radio Galère, c'est pas possible. Si on nous enlève Radio Galère, on n'a plus Marseille. Hein. Et si on enlève le contraire, on enlève Marseille, on n'a plus Radio Galère non plus. Radio Galère doit rester et continue à vivre. Et moi, j'aimerais bien faire partie d'un petit bout, un tout petit bout, parce que je, avec vous, parce que moi, je suis humble, je fais une toute petite chose. Une petite chose et une petite chose, ça fait deux petites choses.
L'émission Camar, déjà la radio, je ne vais pas dire quelque chose de... je ne vais pas mentir parce que je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais écouté. J'ai beaucoup entendu ce qu'il faisait, mais je n'ai jamais eu encore l'occasion d'aller écouter de 15h à 16h. Il m'a fait beaucoup écouter Jérémy, m'a beaucoup parlé de ce qu'il faisait en général. Mais ce qu'il fait m'intéresse beaucoup, d'ailleurs c'est la preuve que je suis là, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis en même temps, c'est quelque chose qui me... On va dire que ça me met dans une position où je peux m'exprimer peut-être pas... j'ai toujours parlé, j'ai toujours eu beaucoup de facilité à parler envers, avec les autres, mais le fait de pouvoir parler à beaucoup d'auditeurs, d'auditeurs, parce que je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, on a toujours plus, on a toujours des choses qui nous tiennent plus à cœur. Hein. Bon, après, moi, c'est par rapport à mon histoire, à ma vie, à ce qui m'est arrivé dans toute la durée de ma vie jusqu'à maintenant, et puis ce que j'ai vécu pendant que j'étais jeune, parce que comme on dit, ce qui te construit, c'est à partir de ton enfance, et puis tu grandis avec les gens, les adultes qui te donnent une certaine éducation, et qu'il y a arrivé un moment, tu arrives à un âge où à 18 ans, tu es...
Majeur,
voilà. Alors, tu arrives à un moment où tu es majeur, après, c'est toi qui prends ta vie en main, et puis après, je vais pas dire que j'ai été toujours une bonne entrepreneuse, et j'ai pas toujours fait les bons choix, mais j'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes et je pense que ce qui m'a sauvée et ce qui m'a donné encore envie de continuer à vivre par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça a été beaucoup les produits. Donc j'ai eu beaucoup d'addictions, j'ai toujours beaucoup d'addictions. Et moi, je pars du principe que si j'aurais pas, par exemple, j'aurais pas bu, je ne serais pas tombée dans l'alcool, je me serais peut-être suicidée. Parce que l'alcool m'a beaucoup servi à passer outre par rapport à tout ce qui se passait dans ma famille et puis dans ma vie. Heureusement que j'ai pu m'évader avec toutes ces addictions, parce que ça n'a pas toujours été facile. Mais à l'heure d'aujourd'hui, oui, j'ai 46 ans, et ce que je pense, c'est que je ne suis plus une enfant, je suis une adulte, mais une adulte qui a été mal construite. C'est comme si, vous savez, c'est comme une maison. Vous savez, si les charpentes, elles ont été mal placées, mal construites, et ben la baraque, elle se plante, arrive un certain temps, et la baraque, elle s'écrase, elle s'écroule, et t'es obligé de la remettre en place. Et ben moi, ça a été un peu ça. Moi, j'ai eu de mauvaises bases, mauvaise construction, mauvaise charpente, mais j'ai pu récupérer et réparer et me reconstruire tout doucement, ce qui n'est pas encore tout à fait au point, parce que je suis toujours quelqu'un qui a beaucoup d'addiction envers les produits stupéfiants, mais je suis pas quelqu'un qui est vicieuse, voleuse, méchante. Bon, moi s'il y a quelque chose en qui je fais du mal, envers qui je fais du mal, c'est envers personne d'autre que moi-même. Et le fait de pouvoir en parler par le biais de Camar, eh ben, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait des gens comme ça qui puissent venir auprès de nous, tu vois, qui nous fassent un peu pas du rentre-dedans, mais qui viennent vers nous pour dire mais si, vous avez le droit de parler, on peut vous écouter, et puis il ne faut pas hésiter. Et moi je pense que j'ai cette chance aujourd'hui, c'est de pouvoir. Par le biais de Camar, de pouvoir dire mes ressentis, que ce soit les bons, que ce soit les mauvais. Mais en tous les cas, moi, je remercie beaucoup Camar et Radio Galère qui pourra peut-être me faire le plaisir de me faire entendre. Et puis de m'entendre à moi aussi, parce que c'est pas toujours évident de parler et de pouvoir se rendre compte que le fait d'en parler, et ben ça peut réparer aussi des mots, et puis les mots avec sur les mots, parce qu'il y a les mots M-O-T, S, avec mes mots M-E-A-U-X, je peux dire que oui, c'est enrichissant et. C'est quelque chose qui. Je veux dire que c'est une aubaine pour moi, ouais, mais je veux pas cracher dessus. Mon but aujourd'hui, alors j'ai l'hépatite C, je suis alcoolique, et là prochainement j'envisage de faire un sevrage pour l'alcool, mais j'en suis à mon 7e, donc avec mon docteur qui s'appelle Dirk Putschel, qui est addictologue, et on a décidé de faire autrement, c'est-à-dire de me faire rentrer déjà en hôpital de jour, c'est-à-dire m'occuper, parce que moi
شيرت منك كني عيني سيدي كبري جميل الزر شدرت فيا خبرني شسمعت عليا وكيلك ربي شدرت قلبي
déjà, où qui fera que je me restabiliserai sur une vie, on va dire, plus ou moins, entre parenthèses, normale, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, normale, mais bon, bref. Après, envisager donc d'arrêter un certain temps, parce que moi, je n'ai pas l'intention d'arrêter de boire à vie, parce que l'alcool, moi, c'est quelque chose que j'aime. Je ne vais pas dire que j'aime pas l'alcool, j'aime l'alcool, j'aime le goût, je ne bois pas juste pour me... Et je ne me défonce pas, hein. C'est vraiment quelque chose comme tous les jours, quoi. C'est quelque chose qui me met normal. Normal, mais avec un peu plus de... Je me sens un peu plus en sécurité, je me sens plus forte, je me sens... Voilà. Je me sens moins faible.
Moins fragile,
voilà. Et Et après, donc, une fois que j'aurai fait ce sevrage pour arrêter de boire complètement, parce que je souhaite arrêter de boire complètement pendant toute la durée de mon traitement pour mon hépatite C, que je vais certainement faire prochainement soigner. Et une fois que j'aurai réussi à faire ça, alors là, je pourrai essayer de faire en sorte à retrouver un petit travail, parce que j'ai besoin de m'occuper, j'ai besoin... Alors, je suis secrétaire de métier, j'ai toujours fait ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, parce que je suis quelqu'un qui aime j'aime les gens, et je voudrais faire de l'aide à domicile, ou être auxiliaire de vie, bon, peut-être pas 8 heures par jour, mais si jamais je peux m'occuper 4 heures par jour en aidant les autres, en allant vers les autres, parce qu'il n'y a pas que les aider, parce qu'eux m'aideront aussi, hein, ça c'est clair, c'est beaucoup d'échanges, et je veux retrouver une occupation professionnelle, je veux retravailler, et voilà, c'est ce que j'envisage dans ces prochains mois.
Ben, nos chemins.
Oui, bien sûr, je regrette beaucoup de choses qui m'est arrivées ou que j'ai faites. Bon, je suis pas parfaite, hein. Loin de là. Mais je suis une femme de cœur, quoi. Ça, je le sais. Et mais ça m'aide bien, parce que j'aurais la mentalité de certaines personnes que je connais dans mon entourage qui sont aigries, qui sont malsains, qui n'aiment pas les autres, qui font semblant. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais pas être à leur place. Mon Dieu, que non. Moi, je préfère être ce que je suis. Peut-être toxicomane, alcoolique, dépressive et tutti quanti, mais je suis franche, entière et généreuse.
Et très agréable.
Merci, maman. Mais je suis quelqu'un... Voilà, ouais, bien sûr. Bien sûr que je suis pas parfaite, mais je pense qu'il y a pire, quoi.
Personne n'est parfait, rien. Non. Toi, ni moi, ni personne. Non. Peux-tu me parler un peu de toi quand tu étais plus jeune?
Oui. Alors, moi, je suis originaire de Sens, la Bourgogne, Lyon, 89. À Sens, S-E-N-S. Sens, 2 minutes d'arrêt. Non, je suis originaire de Sens. Maman est originaire de Villeperrot. Et j'ai un papa qui était originaire.
Je grimpe les escaliers en recherche d'usagers de drogue. Sur la plateforme, quelques seringues usagées, mais personne. Je redescends. Un vigile est posté dans les escaliers. Il m'interroge sur ma présence. Je lui explique que je conduis un travail de recherche à la demande de mon employeur sur la présence d'usagers de drogue dans le centre-ville. Réponse du vigile. Je m'en branle. Mais si vous voulez en savoir plus, suivez-moi. J'hésite, puis je le suis. Je me retrouve avec lui au centre de contrôle du centre bourse. Il me montre les écrans, arrête une image et me dit « En voilà ». Sur l'image, il montre un recoin d'escalier. Il détache son chien, lui met la muselière et m'invite à le suivre. Nous pénétrons dans les sous-sols du centre commercial. L'escalier est sombre, il sent l'urine, lumière blafarde. Je me demande ce que je fais là. Il s'arrête net dans l'escalier et crie « Sors de là !» Devant lui, je devine une jambe nue. Une jeune fille sort, le pantalon au pied. Elle a du sang sur les cuisses. Elle est apeurée. Je reconnais Isa. Je suis mal. Je me demande ce que je fais là. Je suis comme dans une scène de Tarantino. Et je me demande pourquoi je n'ai pas fait menuisier. J'ai envie de partir. Je reste. Je demande au vigile de me laisser seul avec elle. Il profère quelques injures. Il tire sur la laisse de son chien et il s'en va. Isabelle me reconnaît. Elle ne sait pas quoi faire et je la vois se baisser, prendre une seringue usagée sur le sol, la nettoyer avec l'eau croupie. Elle finit son injection. Je remonte les escaliers sans rien dire. Momo entre en trombe dans Transit. Je suis seul. Mes collègues viennent de partir, nous sommes en principe fermés depuis une demi-heure. S'il te plaît, donne-moi des pompes et des préservatifs, c'est pour Louisa. Momo connaît la règle. Pas de matériel pour d'autres, uniquement pour soi. Je la lui rappelle. C'est pour Louisa, elle est à la gare, elle est défoncée, elle tapine, elle fait n'importe quoi. Louisa est une jeune femme que l'on voit tous les jours, elle ne parle pas beaucoup. Elle accompagne un mec un peu bizarre. Louisa n'a jamais rien dit ni demandé, nous ne la brusquons pas. Louisa est ailleurs. Elle est posée là sans que l'on sache pourquoi. L'arrivée de Momo, qui appelle au secours pour Louisa, me bouscule. Je n'ai pas la force d'appliquer la règle que j'ai moi-même fixée. Je vais à l'infirmerie prendre un paquet de seringues, des préservatifs, et je fais un mot que je place avec les seringues et j'écris. Louisa réagit. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Cette invitation. En écrivant, j'ai le sentiment de ne pas faire mon boulot, d'être dans l'affect. Louisa me touche, c'est vrai. Louisa m'empêche de penser, c'est vrai. Louisa me rappelle quelqu'un, c'est vrai. Le lendemain, je parle de la situation à notre superviseur. Je lui dis que je suis fatigué, que ces seringues données par dizaines m'empêchent de dormir, que je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que je fais, qu'il y a de la violence dans cet échange de seringues, que cette pratique me fait violence, que je ne devrais pas me mettre dans cette situation, que je suis un drôle de chef de service qui n'applique pas les règles. Chantal, la nouvelle éducatrice de service, me dit que je devrais m'abstenir lorsque les usagers me bousculent de trop, en particulier les jeunes filles, qu'il faut que je m'interroge sur mes tendances. Papa. 2 années plus tard, je suis tout seul à Transit. Nous n'avons pas encore ouvert. Quelqu'un sonne à la porte et je devine en transparence au travers.
Et voilà la suite, ça sera jeudi prochain. Donc, on se dit à la fin. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. C'était Fragment de vie, des vies fragiles. Réalisation Camaridir. À la technique Kader. Et Sidi. Ciao.